Bon, alors avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Je tiens à signaler aussi que donc ce travail est un travail de l'association des collaborateurs de Sophie Germain. Donc Sophie Germain, comme il a déjà été dit, s'excuse ce soir de ne pas être présente. Elle est à la pêche, profite du beau temps. Je vais essayer du mieux que je peux de présenter son travail, donc sur l'origine des différentes espèces de poissons. Je vais commencer à présenter. Ah, ça se passe, d'accord. Effectivement. Je vais commencer par rappeler les données classiques de la foi la plus répandue en domaine qui est de nature purement religieuse, qui est la foi darwinienne. Je préciserai ensuite comment est-ce que les faits contredisent ça dans le cas particulier des poissons, donc en donnant les problèmes particuliers aux poissons que pose l'explication darwinienne, en essayant de voir quelles sont les conséquences qu'on pourrait en tirer, qui pourraient être mesurables, afin de voir si on va pouvoir la falsifier. Je vais prouver que simplement cette hypothèse ne tient pas la route. Et dans la troisième partie, je vais parler un petit peu du reste, notamment de comment les poissons influent sur le côté religieux. Alors, la foi darwinienne nous présente, alors les livres sacrés, je vais en parler plus tard, nous disent que les poissons, la présence de nombreux poissons s'explique par un miracle très classique, c'est le miracle de la multiplication des poissons. Donc simplement, vous avez un poisson, à la sortie, vous avez 5000 poissons. Bon, mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même un poisson au départ. Et donc, cette hypothèse postule un ancêtre commun. Alors l'ancêtre commun, on nous dit que c'est une sorte de ver. Vous voyez en effet que plus on va vers la gauche sur le diagramme, plus on a quelque chose qui est allongé, et donc, à la fin, on a une espèce de ver. La variété des espèces serait due au hasard, et il y a un arbre qui intervient quelque part. Alors où, c'est pas complètement clair. L'opinion classique, c'est que si on penche la tête vers la droite, et qu'on imagine que c'est des feuilles, ça a l'air d'être un arbre. Bon, alors ça c'est le dogme. Donc le dogme, c'est le livre saint écrit par l'oracle Darwin, Origine of Species, qui est un livre très ancien, et comme tous les livres anciens, il est écrit dans une langue morte, et donc il y a des problèmes de traduction. Il y a de nombreux problèmes de traduction de tous les livres sacrés, selon les différentes éditions qui ont été faites, recopiées les unes sur les autres, on n'est pas sûr exactement de quels termes sont utilisés, donc il y a de nombreuses ambiguïtés quant à l'interprétation à tenir. Simplement, les exemples les plus classiques qui sont donnés dans ce livre sont l'exemple des pinsons, donc qui sont des oiseaux, l'exemple du singe qui aurait évolué pour devenir l'homme. Bon, pourquoi il reste encore des singes, ça?
C'est la piqûre précédente.
Oui, j'ai oublié de le signaler, je m'appuierai également sur certains des travaux du séminaire précédent, notamment sur l'exposé de Sébastien sur les singes qui ont évolué pour devenir des manchots, et sur l'exposé de Gaëtan sur les espèces de poissons. Je ne pouvais pas faire moins. Et un autre exemple plus récent, d'une version différente de cette religion, c'est les dinosaures qui évoluent pour donner des oiseaux. Alors, les prédictions qu'on peut tirer de ce modèle. Alors, les prédictions, c'est que on peut. Alors, il y a une propriété mathématique très compliquée sur la distance entre espèces, qui s'appelle l'ultramétricité, qui est prédite par ce modèle. C'est lié au fait que ce qu'on obtient est un arbre. Et une deuxième prédiction qu'on peut faire, c'est si je prends une espèce de base et que je regarde la distance entre espèces, comment elle évolue au cours du temps. Sur une durée courte, eh ben elle est assez proche. Sur une durée moins longue, elle s'étale un petit peu. Et sur une durée longue, on va évoluer de plus en plus loin. Alors c'est un processus mathématique très compliqué, donc je vous donnerai pas le nom parce que c'est quelque chose d'affreusement compliqué. Dans la deuxième partie, donc je vais montrer que cette théorie va à l'encontre du sens commun et aussi des techniques scientifiques. Donc déjà on peut voir que ça va à l'encontre du sens commun, enfin il suffit d'y penser et de voir où est le problème. Hein? Well, check out Mr. Evolution. C'est effectivement stupide, il est aussi bien dans l'eau. Un poisson, il va pas sur Terre. Alors, les espèces classiquement étudiées, donc j'ai représenté ici les espèces dont on parlait, et d'autres. Donc je vais parler des pinsons, je vais parler des oiseaux, je vais parler des singes. Alors, vous voyez que toutes ces espèces correspondent effectivement à des arbres. J'ai dit qu'un arbre intervenait. Alors on voit que ça correspond, et ça explique également l'évolution des chatons, et ça explique aussi l'évolution d'une espèce de grenouille, apparemment. Donc ça fait pas mal d'espèces, au moins chez les vertébrés, mais les poissons. Hein, un poisson dans un arbre, c'est a priori assez stupide. Bon, donc clairement, c'est pas adapté au cas des poissons. Alors, l'autre problème, c'est qu'il y a des relations manifestes entre des espèces de poissons et de non-poissons. Hein, j'ai ici donc le poisson chat ici, le poisson chien, le poisson ci.
<Alors. rire>
le poisson volant, le poisson lune et le poisson cheval, tout en haut. Et bon, il est clair, chacun est relié à un objet de l'autre côté, mais si j'essaie de classer les objets à gauche et à droite de la façon dite donnée par le dogme, bah, au milieu j'obtiens bah, un sac de nœuds et on n'y retrouve absolument rien. D'accord ? Je veux relier le poisson cheval au cheval, le poisson chat au chat, le poisson chien au chien, le poisson scie à la scie, le poisson volant au volant. Le poisson lune à la lune, et bah ça fait un sac de nœuds. Bon, il y a aussi des humains qui sont reliés. Le sélacanthe est un poisson de la classe des sarcoptérygiens, alors il y a probablement un rapport. Et Madame de Pompadour m'intervient quelque part par son nom de jeune fille. Alors, donc un premier essai de mesure de la distance des poissons, c'est de mesurer simplement leur distance géographique. C'est-à-dire, on prend une photo de la Terre, et on compte où sont tous les poissons. Et on regarde la répartition de la distance que ça nous donne. Si ça correspond au modèle que je vous ai montré tout à l'heure, alors c'est que la théorie est vraisemblable. Si ça correspond pas, c'est n'importe quoi. Alors on a un petit problème, c'est que pour le moment c'est inutilisable, parce que avec les technologies modernes, on peut espérer mesurer quelques milliers, dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de poissons, mais il y en a beaucoup plus dans la mer. Alors j'ai eu un gros problème pour estimer le nombre total de poissons dans la mer. J'ai utilisé plusieurs techniques pour ça. Alors il y a plusieurs techniques. Bon, la technique simple, c'est de calculer le volume de la mer, la concentration de poissons dans la mer, et de multiplier. La technique plus précise, je pense, c'est de se rapporter à la Bible. Alors la Bible nous dit que Noé a pris 2 exemplaires de chaque espèce, donc y compris des poissons. Bon, maintenant elle nous dit aussi l'époque à laquelle s'est passé le déluge. En cherchant un tout petit peu, on trouve le taux d'accroissement de la population. Il suffit d'intégrer de l'un à l'autre et on trouve le nombre de poissons maintenant. Bon, alors la question c'est, bon, les techniques actuelles ne le permettent pas de détecter tous les poissons, mais d'ici quelques années elles le permettront. Vous avez en rouge la puissance de calcul qui augmente exponentiellement, c'est la loi de Moore, et donc on peut projeter d'ici quelques années et savoir quand est-ce qu'on aura la puissance de calcul qui permet de mesurer tous les poissons de la mer. Bon, alors ça nous donne une date de 2083 à peu près, alors je vous dis pas les calculs. Simplement, il y a un autre facteur à prendre en compte qui nous avance encore un peu, c'est que le nombre de poissons avec la surpêche descend lui exponentiellement. Et donc ça nous ramène plutôt que 2083, c'est-à-dire ici où on va rattraper le nombre de poissons actuel, simplement à l'intersection de ces deux courbes, donc ici, plutôt 2038. Très précisément le 19 janvier 2038. Oups. Alors, donc, j'ai mesuré expérimentalement la répartition de la distance, en prenant d'abord le cas de toutes les espèces de poissons. Alors, comme on voit, ça respecte pas du tout la répartition qui était prévue tout à l'heure, qui était donnée par les 3 courbes. Ça ne correspond à aucune de ces 3 courbes. Donc, ça falsifie la théorie. Alors, là où c'est encore plus criant, c'est quand j'essaie de mesurer en m'intéressant qu'aux espèces intéressantes de poissons. Une espèce intéressante, c'est quoi? C'est une espèce comestible. Il y a très peu d'espèces comestibles, pour beaucoup d'espèces non comestibles, c'est-à-dire qui sont soit toxiques, soit pas bonnes, qui sont mangées que par les Japonais, comme le fugu. Donc, si on s'intéresse que aux espèces comestibles, et ben ça fait beaucoup moins d'espèces, il va y avoir des pics qui vont apparaître comme ça. Alors, ça c'est le fugu, je l'ai enlevé. Alors, bon, maintenant que la théorie est falsifiée, il faut essayer d'aller un peu plus... Alors, une dernière raison de la falsifier, c'est qu'il y a un triplé classique de mots, c'est... Alors, poison, potion, c'est connu, et il est évident que poisson s'inscrit aussi dans ce triplet. Donc, il y a un doublé classique, poison, poisson, donc de même que plein d'autres doublés que je vous donne ici, qu'on trouve dans l'expression courante, se faire empoissonner. Et, alors, je vous rappelle que le dogme disait que le poisson était issu d'une espèce de ver, mais on voit que, clairement, poisson, poison, poisson, ça n'a rien à voir avec les vers. Donc une première source possible de la fausse origine qui est donnée par la théorie classique serait qu'il y aurait une confusion entre les vers 2RES et les potions et que de là on remonte au poisson. Et l'autre source possible de cette hypothèse serait, mais alors celle-là elle est improbable, c'est que tout simplement Darwin avait trouvé un moyen à partir d'un vers pour obtenir un poisson. Alors je ne sais pas trop comment on fait, mais apparemment dans certaines conditions, en prenant un vers on peut obtenir un poisson. À la place, parfois. Il paraît qu'il avait trouvé... Enfin, en interprétant différemment cette traduction très ancienne, on arrive à cette hypothèse, et ça a peut-être été interprété abusivement par certains zélotes comme des vers qui se changent en poissons. Alors, dans la troisième partie, je vais parler du reste. Alors, tout d'abord, je vais parler du comportement grégaire des poissons. Alors les poissons se rassemblent en bancs chez certaines espèces, donc chez les poissons zèbres, les poissons fourmis, les poissons abeilles, les poissons soldats, mais pas les poissons ours. Enfin, il y a beaucoup d'espèces de poissons qui se rassemblent en bancs, sans structure sociale apparente. C'est-à-dire qu'il n'y a ni poisson crassine, ni poisson tature. Il n'y a pas de poisson qui décide, et il n'y a pas non plus de vote entre tous les poissons où ils se rassembleraient pour dire de quel côté on va maintenant, on va par là, etc. Donc il n'y a rien de tel. Donc comment est-ce qu'ils décident leur direction? Alors c'est un problème compliqué, c'est un problème dit de parallélisme. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont communiquer entre eux en communiquant juste deux à deux, a priori, pas plus, pour réussir à se mettre d'accord et à être tous parallèles. À chaque instant. Donc la seule solution plausible, en fait, j'ai mis solution possible, mais c'est même la seule solution plausible, c'est qu'il y a une inspiration divine qui les guide. Hein, c'est un oracle, comme le disait mon confrère il y a peu de temps. C'est la seule solution possible. Alors, le poisson comme symbole religieux. Alors ceci est une gravure néolithique. Donc voilà, je pense que le poisson est un symbole religieux. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Bon, plus sérieusement, c'est un symbole religieux de la foi darwinienne. Alors nous voyons ici les deux symboles sacrés, le poisson et l'arbre. Et le fameux arbre à poisson. Alors, bon, je n'essaierai pas de comprendre, c'est les mystères de la foi. Comment ces poissons se retrouvent dans cet arbre? Alors, je vais vous parler maintenant d'une découverte récente, puisqu'elle a tout juste un an. Donc ça a été publié dans Nature l'année dernière. Un poisson à pattes, un fossile, a été retrouvé l'année dernière au nord du Canada, dans les étendues gelées. Donc cette bestiole-ci, charmante. Donc il s'appelle le poisson d'Éden. Alors d'après les méthodes de datation qui ont été utilisées, il aurait vécu il y a plus de 6000 ans. C'est ce qu'on dit les méthodes de datation. Or, il se trouve que le jardin d'Éden a existé il y a plus de 6000 ans. Bon, donc cette bestiole a vécu dans le jardin d'Éden. Par ailleurs, nous voyons que c'est un poisson avec des pattes. Alors, à quel milieu cette créature est-elle adaptée? C'est un milieu marécageux. Donc, ceci prouve que le jardin d'Éden comportait des zones marécageuses, de larges zones marécageuses. Par ailleurs, pourquoi ce poisson a-t-il disparu aujourd'hui? Eh bien, nous voyons que c'est une espèce donc adaptée à la vie semi-terrestre, probablement pas capable de survivre en vie maritime, et donc ça doit être une erreur d'appréciation de Noé qui, l'ayant vu comme un poisson, a dit « bon, bah toi tu restes dans la mer », et ne l'a pas pris alors qu'il n'y était pas adapté à la mer. Voilà. Alors, je vous laisse la dernière avec l'origine possible pour les poissons. alors, je vous lis le texte si jamais il y en a qui n'arrivent pas à lire. Portrait de l'arbre qui porte les feuilles, lesquelles tombées à terre se changent en oiseaux volants et celles qui tombent dans les eaux se muent en poissons. La conclusion est que finalement les poissons poussent dans les arbres, ainsi que les oiseaux, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ceci est un document scientifique ancien, donc sa véracité est absolument incontestable. ça peut être une autre source de l'erreur de Darwin. Voilà, alors en conclusion, je dirais que présent les pistes de recherche qui s'imposent, puisque il y a 2 ans a été démontré que les manchots descendaient du singe, et que là nous venons de montrer que les poissons descendaient eux des arbres, ce serait de savoir laquelle des deux espèces a copié sur l'autre en termes de guerre technologique, notamment laquelle des deux a inventé la nageoire en premier. Effectivement, il y a de sérieux problèmes d'imitation entre l'une et l'autre, et il convient de régler cette dispute de propriété intellectuelle au plus vite. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Vous dites, un slide plus tôt, vous dites que l'explication pour la disparition des poissons d'Éden, c'est que Noé ne l'a pas pris dans l'arche, parce qu'il n'a pas pris les poissons dans l'arche, et plutôt vous utilisez le fait qu'il avait pris 2 poissons pour compter le nombre de poissons total sur Terre.
Mais les faits sont les faits, si vous ne les croyez pas, c'est que vous êtes un fanatique darwinien. Oui. Ah, j'écouterai avec joie l'avis d'une spécialiste sur le sujet. Oui. Alors, j'ai 2 objections à cela. La première, c'est que vu qu'ils n'ont que des nageoires et pas de bras, où mettraient-ils les pompons? Et la deuxième, c'est qu'on voit assez rarement les poissons s'entraîner. Oui. Des sources fiables me l'ont rapporté. Pas d'autres questions? Bon, je laisse la parole à Rachel. Ah, Rémi, pardon.